l'époque où je grimpais encore aux arbres. Cela fait longtemps, longtemps. Cela fait des années, des dizaines d'années.
Je ne mesurais guère plus d'un mètre. Je chaussais du 27 et j'étais si léger que j'étais capable de voler.
Non, ce n'est pas un mensonge. J'étais réellement capable de voler en ce temps-là.
Ou du moins presque.
Ou disons plutôt qu'à l'époque, j'aurais eu effectivement la capacité de voler, si seulement je l'avais voulu très fort et si j'avais essayé pour de bon.
Car je me rappelle qu'une fois, il s'en est fallu d'un cheveu, un peu plus j'aurais volé. Cela se passait en automne.
La première année où j'allais en classe. Et en rentrant de l'école...
Il soufflait un vent tellement fort que sans même écarter les bras, je pouvais m'appuyer contre lui à l'oblique.
Penché comme pour le saut à ski.
Et même davantage. Sans tomber.
Et quand je me lançais contre le vent en dévalant les prés en dessous de l'école...
Elle était située sur une colline en dehors du village.
Et que je décollais un tant soit peu du sol en écartant les bras...
Alors le vent me soulevait et je pouvais sans effort faire des bonds de 2 ou 3 mètres de haut et 10 ou 12 mètres de long.
Ou peut-être pas tout à fait aussi haut ni aussi long. Quelle importance.
Was spielt das für eine Rolle? Jedenfalls flog ich beinahe. Und hätte ich nur meinen Mantel aufgeknöpft und beide Hälfte in die Hände genommen und wie Flügel ausgebreitet? Dann hätte mich der Wind wohl ins Empor gehoben. Und ich wäre mit größter Leichtigkeit vom Schulberg über die Talsenke zum Wald gesegelt. Und über den Wald hinweg hinunter zum See, wo unser Haus lag. Und hätte dort zum grenzenlosen Staunen meines Vaters, meiner Mutter, meiner Schwester, meines Bruders, die zum Fliegen alle schon viel zu alt und zu schwer waren, hoch über den Garten eine elegante Kurve gedreht und dann hinauszuschweben, fast bis ans andere Ufer hinüber. Und mich endlich gemächlich zurücktragen zu lassen und immer noch rechtzeitig zum Mittagessen zu Hause einzutreffen. Aber ich habe den Mantel nicht aufgeknöpft und bin nicht wirklich hoch hinaufgeflogen. Nicht, weil ich Angst gehabt hatte vor dem Fliegen, aber weil ich nicht wusste, wie und wo und ob überhaupt ich je wieder würde landen können. Die Terrasse vor unserem Haus war zu hart, der Garten zu klein. Das Wasser im See zu kalt für eine Landung. Aufsteigen, das war kein Problem. Wie aber kam man wieder herunter? Beim Bäumeklettern war das ähnlich.
Pour grimper aux arbres, c'était pareil. La montée présentait des difficultés minimes, mais pour redescendre...
On ne voyait rien.
Alors on dérapait ou l'on chutait.
Et on tombait jusqu'au sol comme une pierre. La pire de mes chutes se passa durant ma première année d'école.
J'étais dans un sapin à 4,5 mètres de hauteur.
Et ma chute se déroula très précisément selon la première loi de Galilée.
Qui dit que la hauteur parcourue est égale à la moitié du produit de la gravitation terrestre et du temps au carré.
Et elle dura donc très exactement
0,9,
5, 7,
8,
2,
6,
2
secondes.
C'est un temps extrêmement court.
C'est plus court que le temps qu'il faut pour compter de 21 à 22.
C'est même plus court que le temps nécessaire pour prononcer distinctement le nombre 21. La chose se passa à une vitesse tellement énorme que je ne pus ni écarter les bras ni déboutonner mon manteau pour l'utiliser comme parachute.
Je n'eus même pas l'idée de génie que rien ne me forçait à tomber, puisque j'étais capable de voler.
Ma chute me valut une bosse. La bosse disparut au bout de quelques semaines à peine. Mais au cours des années, je me mis à ressentir à l'endroit même où j'avais eu cette bosse une étrange sensation de chatouillis et de pulsation à chaque changement de temps.
Surtout quand il y avait de la neige dans l'air. Et aujourd'hui encore, près de 40 ans plus tard, ma nuque est pour moi un baromètre infaillible.
Et je suis capable de dire plus précisément que la météo, si demain il pleuvra ou s'il neigera.
S'il fera soleil ou si une tempête s'annonce.
Et je crois également qu'une certaine confusion d'esprit et cette difficulté que j'ai à me concentrer sont une conséquence lointaine de la chute que je fis de ce sapin.
Ainsi, il m'est de plus en plus difficile, par exemple, de ne pas dévier de mon sujet, de formuler une idée précise de façon brève et concise.
Et lorsque je veux raconter une histoire comme celle-ci, il faut que je fasse drôlement attention de ne pas perdre le fil. Sinon je digresse et je me perds en des détails qui n'en finissent pas. Et au bout du compte...
Je ne sais plus par quoi j'ai commencé. Mais qu'est-ce que je raconte avec mes histoires de voler et de grimper aux arbres? Alors que, en fait... Je voulais raconter une toute autre histoire. à savoir l'histoire de M. Sommer. Pour autant que cela est possible, car il n'y eut pas là à proprement parler d'histoire. Il y eut seulement cet homme étrange dont la destinée, ou devrais-je plutôt dire la randonnée, croisa la mienne à quelques reprises.
Zu der Zeit, als ich noch auf Bäume kletterte, lebte in unserer Gegend einen Mann mit Namen Herr Sommer. Kein Mensch wusste, wie Herr Sommer mit Vornamen hieß. Ob Peter oder Paul oder Heinrich oder Franz Xaver. Ob er vielleicht Dr. Sommer oder Professor Sommer hieß. Oder Professor Dr. Sommer. Man kannte ihn einzig und allein unter dem Namen Herr Sommer. Personne non plus ne savait si Monsieur Sommer exerçait un métier. Kein Mensch wusste, ob Herr Sommer einen Beruf nachging, ob er überhaupt einen Beruf hatte oder jemals gehabt hatte. Man wusste nur, dass Frau Sommer einen Beruf ausübte, und zwar den Beruf der Puppenmacherin. Tag aus, Tag ein sah sie in der Sommerschen Wohnung, im Souterrain des Malermeisters Stangelmeier, und fabrizierte dort aus Stoff, Wolle und Sägespäne kleine Kinderpuppen, die sie einmal pro Woche aufs Postamt brachte. Auf dem Rückweg vom Postamt ging sie nach der Reihe zum Bäcker, zum Krämer, zum Metzger, zum Gemüsehändler, kam mit 4 prall gefüllten Einkaufstaschen zu Hause an, verließ die Wohnung für den Rest der Woche.
Quoi qu'on ne sût à peu près rien de Monsieur Sommer, on peut pourtant affirmer à coup sûr qu'à l'époque, Monsieur Sommer était de très loin l'homme le plus connu de toute la région. Dans un rayon de 60 kilomètres tout autour du lac, il n'y avait personne, ni homme, ni femme, ni enfant, ni même chien, qui ne connût Monsieur Sommer. Car Monsieur Sommer était toujours par Mons et par Vaux. Il y avait 2 choses que Monsieur Sommer portait hiver comme été. L'une était son bâton, l'autre son sac à dos. Le bâton lui servait un peu de 3e jambe, sans laquelle il n'eût jamais atteint les vitesses énormes ni parcouru les incroyables distances qui surpassaient tellement les performances d'un promeneur normal. Mais où ces randonnées le conduisaient-elles? Il n'allait rien porter, il n'allait rien acheter.
Son sac à dos était vide et le demeurait, à part son casse-croûte et son ciré.
Il ne se rendait ni à la poste, ni au service administratif du chef-lieu.
Il laissait tout cela à sa femme. Il ne rendait pas non plus de visite et ne faisait étape nulle part.
Lorsqu'il allait à la ville, il ne s'arrêtait pas pour manger quelque chose, ni pour boire un verre.
Il ne s'asseyait même pas sur un banc pour souffler quelques minutes, non. Il faisait demi-tour sur place et filait de nouveau vers chez lui ou Dieu sait où. Lorsqu'on lui demandait « D'où venez-vous, Monsieur Sommer? Où allez-vous ?» Il secouait la tête avec impatience, comme s'il avait une mouche sur le nez, et marmonnait quelque chose qu'on ne comprenait pas du tout, ou seulement par bribes, comme « Très pressé, il faut que je monte vers l'école. » Tout de suite le tour du lac.
« Que je sois à la ville avant ce soir, absolument. Très très pressé, justement, pas un instant. »
Et avant même qu'on ait le temps de dire « Pardon? Comment? Où ça ?» Il avait déjà filé à grand renfort de coups de bâton. Une seule fois, j'ai entendu une phrase entière dans la bouche de Monsieur Sommer. Une phrase prononcée distinctement, clairement, sans la moindre ambiguïté, que je n'ai pas oubliée depuis et qui aujourd'hui encore résonne à mon oreille. Mon père m'avait emmené aux courses comme souvent le dimanche, car il allait aux courses tous les dimanches, et ce soit dit en passant non pas pour jouer, mais par pur amour des chevaux. Quoique de sa vie il ne fût jamais monté sur un cheval, il adorait les chevaux et s'y connaissait fort bien. Nous étions donc allés aux courses, et lorsqu'en fin d'après-midi nous reprîmes la voiture pour revenir de l'hippodrome, il faisait très chaud, plus chaud même et plus lourd qu'à midi. Mais le ciel s'était déjà voilé d'une mince couche de brume. À l'ouest s'étaient accumulés des nuages d'un gris de plomb au bord jaune soufre. Au bout d'un quart d'heure, mon père dut allumer les phares, car les nuages s'étaient d'un coup tellement rapprochés qu'ils barraient l'horizon comme un rideau et jetaient sur le paysage des ombres lugubres. Presque en même temps, la pluie commença. Non, pas encore la pluie. Il commença par tomber seulement de grosses gouttes isolées, comme des grains de raisin qui venaient s'écraser ça et là sur l'asphalte. Et puis l'orage se déchaîna. L'eau ne tombait pas en gouttes, mais en paquets. Et puis l'on vit des grêlons, d'abord à peine plus gros que des têtes d'épingles, puis comme des petits pois, puis comme des billes, et des gringolants paraissant entiers, des boules blanches et lisses. Nous étions assis là comme dans le fond d'une grande timbale sur laquelle un percussionniste géant abattait ses baguettes, et nous ne pouvions qu'espérer que la frêle coquille qui nous protégeait n'allait pas être fracassée. Au bout de 2 minutes, tout fut terminé. Le vent était tombé, la grêle avait cessé. Il n'y avait plus qu'une petite pluie fine et tranquille. La route paraissait recouverte de tessons, à perte de vue de la glace pilée, et puis arrachée et hachée des branches, des feuilles, des épis. Et tout au bout de la route, j'aperçus au travers du voile mince de cette pluie fine la silhouette de quelqu'un qui marchait là-bas. En approchant, je reconnus le short, les longues jambes noueuses et luisantes, le ciré noir sous lequel le sac à dos faisait une bosse flasque. Enfin, l'allure pressée de Monsieur Sommer.
Monsieur Sommer, montez, nous vous déposerons. Monsieur Sommer, mais montez donc. Par ce temps, je vais vous ramener chez vous. Mais montez donc, nom d'un chien. Vous êtes trempé. Vous allez attraper la mort.
Cette expression est un cliché. Aussi stupide et creux que lorsqu'on entend dire « Vous prendrez bien une tasse de thé, ma chère. Cela vous remontera. »
« Comment va notre malade, docteur? Pensez-vous qu'il va s'en tirer ?»«
Vous allez attraper la mort !»
Je crois qu'il s'arrêta pile au mot « attraper la mort » et si brutalement que mon père dut s'empresser de freiner pour ne pas le dépasser.
Il fit passer son bâton de sa main droite dans sa main gauche, se tourna vers nous et proféra d'une voix forte et distincte cette phrase.
« Aber lassen Sie mich doch endlich in Frieden !»«
Mais laissez-moi enfin en paix !» Il ne fit rien de plus, juste cette phrase. Sur quoi il claqua la portière qu'on tenait ouverte à son intention, fit repasser son bâton dans sa main droite et repartit à grands pas. So sieht einer aus, der Angst hat. So sieht einer aus, der Durst hat. Mitten im Regen, so viel Durst, dass er einen ganzen See austrinken konnte. Ich versuchte mit aller Macht, das Gesicht des Herrn Sommer zu vergessen. Aber desto besser ich es zu vergessen versuchte, desto deutlicher stand es mir vor Augen. Jede Falte, jede Runzel konnte ich sehen. Jede Schweiß und jede Regenperle, das geringste Zittern, diese Lippen, die etwas zu murmeln schienen. Und ich verstand Herrn Sommers Stimme, die flehentlich sagte, »Aber lassen Sie mich doch endlich in Frieden! Lassen Sie mich doch endlich, endlich in Frieden!«
»Cet homme est complètement fou !»«
Ce Monsieur Sommer souffre de claustrophobie !»
Eine schwere Klaustrophobie hat dieser Mann. Und das ist eine Krankheit, bei der man nicht in seinem Zimmer sitzen kann.
Klaustrophobie bedeutet streng genommen...
Dass man nicht in seinem Zimmer sitzen kann. Das hat mir der Dr. Lusterhand in aller Ausführlichkeit erklärt.
Le mot Klaustrophobie est d'origine gréco-latine. Ce que le Dr. Lusterhand n'ignore sans doute pas. Il est composé de deux éléments. Klaustrum... Et phobia. Claustrum signifiant à peu près fermé ou clos. Le mot français vient de là. Ainsi que cloître, cloison ou clôture. Et des noms de lieux tels que Clausen, Chiusa ou Vaucluse. Qui peut me citer un autre mot où se cache la notion de claustrum?
Moi? Rita Stengelmeier m'a dit que M. Sommer tremble tout le temps. Il tremble de tous ses membres. Il a une tremblote, que c'est une vraie danse de Saint-Guy, d'après Rita. Dès qu'il s'assied sur une chaise, ça y est, il tremble. Il n'y a que quand il marche qu'il ne tremble pas. C'est pour ça qu'il est obligé de marcher tout le temps, pour qu'on ne voit pas qu'il tremble.
Il ressemble en cela aux yearnings, ou aux deux ans, qui ont comme cela des spasmes et des tremblements, et qui gémissent de nervosité par tout le corps quand ils sont pour la première fois alignés sur la ligne de départ. Les jockeys ont alors toutes les difficultés du monde à les faire entrer dans leur boîte. Par la suite, ça s'arrange, bien sûr. Ou on leur met des blinkers. Qui peut me dire ce que sont des blinkers?
Patati patata! C'est idiot! S'il n'est pas monté, c'est parce qu'il est claustrophobe et que pour cette raison, il ne peut pas rester assis dans une chambre, mais pas non plus dans une voiture fermée. Demande au docteur Lusterhand. Dès qu'il séjourne dans un lieu clos, champ ou voiture, il a une crise. C'est quoi une crise?
Peut-être que M. Sommer est comme le coureur du conte, le 6 qui voulait faire le tour du monde. Il peut faire le tour de la Terre en une journée. Quand il rentre chez lui, il est obligé de s'attacher une jambe en l'air avec une courroie, parce que sinon il ne pourrait pas tenir en place.
C'est naturellement une possibilité. Peut-être que M. Sommer a une jambe de trop, tout simplement, et qu'à cause de cela, il est obligé de courir tout le temps. Nous devrions demander au Dr. Lusterhand de lui attacher l'une de ses jambes.
C'est idiot! S'il n'est pas monté, c'est parce qu'il est claustrophobe. Et contre la claustrophobie, il n'y a pas de remède.
Das Wort Klaustrophobie ist lateinisch-griechischen Ursprungs, bedeutet so viel wie geschlossen oder abgeschlossen. Klaustrophobie ist eine Krankheit, bei der man nicht mehr ruhig in seinem Zimmer sitzen kann. Er hat Klaustrophobie, sonst nichts. Und gegen Klaustrophobie gibt es kein Mittel. Der Herr Sommer hat Klaustrophobie. Das bedeutet, dass er nicht in seinem Zimmer bleiben kann. Und dass er nicht in seinem Zimmer bleiben kann, bedeutet, dass er immer im Freien herumlaufen muss. Weil er Klaustrophobie hat. Deshalb muss er immer im Freien herumlaufen. Das Wort Klaustrophobie
comme il ne peut pas rester assis dans sa chambre, il est obligé de courir tout en dehors. Parce qu'il a la claustrophobie, il faut qu'il court dehors tout le temps. Or, si la claustrophobie, c'est la même chose que ne pas pouvoir rester assis dans sa chambre, et ne pas pouvoir rester assis dans sa chambre, la même chose qu'être obligé de courir dehors, eh bien alors être obligé de courir dehors est aussi la même chose que claustrophobie. Alors on pourrait tout aussi bien remplacer ce mot compliqué par être obligé de courir tout en dehors. Donc, comme ma mère dit, M. Sommer est obligé de courir dehors parce qu'il a la claustrophobie, elle pourrait tout aussi bien dire M. Sommer est obligé de courir dehors parce qu'il est obligé de courir dehors.
J'imaginais que M. Sommer n'était ni malade, ni obligé à rien, mais qu'il courait tout le temps dehors parce que ça lui faisait plaisir de courir dehors, tout comme ça lui faisait plaisir de grimper aux arbres.
et notamment à l'extérieur de Joshua Tree avec Peng Lai Pavilion devant Komango, Fincher, côté corps devient Going Somewhere, Kazakh jaune avec un peu plus loin à l'extérieur la Kazakh bleue de Intello, le numéro 17.
Bien fausse ligne droite avec toujours Joshua Tree devant à son extérieur, Komango, Peng Lai Pavilion est troisième, Intello et quatrième. Trèfle se rapproche maintenant complètement à l'extérieur avec Trèfle qui a l'avantage, comptant deux longueurs d'avance sur les Japonais. Orfèvre à l'extérieur, Intello, côté corps, Kizuna qui vient à l'extérieur. Incroyable, Trèfle qui a l'avantage maintenant à 150 mètres des buts de devant.
Carolina Kuckelmann avait sur la nuque, entre le lobe de l'oreille et le cou, un léger duvet qui au soleil brillait et dans le vent tremblait parfois tout doucement.
Lundi, je partirai avec toi.
Tu auras le droit de manger dans ma petite assiette. Tu pourras dormir dans mon petit lit.
Lundi, je partirai avec toi. Cette phrase résonnait plus merveilleusement que tout ce que j'avais lu dans les contes de Grimm, plus merveilleusement que la promesse de la princesse dans le roi Grenouille. Et je comptais les jours avec plus d'impatience qu'Austropistache.
Aujourd'hui,
je fais le pain.
Demain,
je fais la cuisine.
Après-demain,
je prends son enfant à la reine.
Du? Du gehst doch immer alleine nach Untersee.
Ja.
Du? Am Montag, da gehe ich mit dir. Ce lundi fut une journée parfaitement radieuse.
Pendant la classe, je me tins impeccablement. Comme jamais cela ne m'était arrivé, je fus docile comme un agneau.
Attentif, sage comme une image, appliqué à faire plus que bien, l'écolier modèle comme on n'en fait plus.
Pas une fois je ne regardais Carolina, pas encore. Je m'obligeais à ne pas le faire, je me l'interdis.
Presque superstitieusement.
Comme si un regard prématuré pouvait finir par me la faire perdre.
La classe terminée, on apprit que les filles devaient rester une heure de plus.
Je ne sais plus pourquoi. À cause d'un travail de couture. Je ne pris pas cet incident au tragique, bien au contraire. J'avais le sentiment d'être à la fois Jean Lachance, frère loustique...
Et le roi de la montagne d'or.
J'avais parcouru la forêt pour sélectionner un itinéraire approprié. J'entendais lui montrer les curiosités les plus cachées.
Il fallait que son chemin pâlisse dans sa mémoire.
Comparé aux splendeurs qu'elle verrait le long de mon chemin.
De notre chemin vers Untersee.
Il s'agissait en l'occurrence et en détail de A.
Un petit édifice abritant un transformateur de la compagnie d'électricité, d'où émanait un bourdonnement ininterrompu et dont la porte d'entrée s'ornait d'un écriteau jaune avec un éclair rouge et l'inscription suivante.
Défense d'entrée.
Haute tension.
Danger de mort. B.
Une collection de 7 framboisiers avec des framboises mûres.
C.
Une mangeoire pour les chevreuils. À vrai dire, 100 fois en cette saison. En revanche, avec un gros bloc de sel.
D.
Un arbre dont on disait qu'un vieux nazi s'y était pendu après la guerre.
E.
Une fourmilière. D'au moins 1 mètre de haut et 1,50 mètre de diamètre.
F. Et enfin...
Bouquet final de cette excursion. Un vieux être merveilleux.
Où je projetais de grimper avec Carolina.
Et sur une bonne grosse branche à 10 mètres de hauteur, de jouir de la vue sur le lac.
De me pencher vers elle et de lui souffler dans le cou. J'attendis à l'embranchement des chemins d'Obernsee et d'Unternsee, à moins de 20 mètres du portail de l'école.
À cet endroit, une pierre faisait saillie sur le sol. Cette pierre comportait en son centre un creux qui avait nettement la forme d'un sabot de cheval. On racontait que c'était l'empreinte du diable qui avait tapé du pied de rage parce que des paysans avaient construit une église près de là, en des temps immémoriaux. Et puis les filles sortirent, d'abord toute une troupe.
Qui passa près de moi en courant.
Et puis la dernière de toutes, elle.
Je me levai. Je lui tendis la main. Elle s'arrêta devant moi. Je voulais prendre sa main. Je voulais l'attirer vers moi. J'aurais surtout voulu la prendre tout de suite dans mes bras et lui poser un baiser en plein visage. Alors elle dit...
Dis donc, tu m'attendais ?
Oui.
Dis donc, je ne pars pas avec toi aujourd'hui. L'ami de ma mère est malade, et ma mère n'y va pas, et ma mère a dit que...
Je descendis la pente pour rentrer chez moi.
Il n'y avait pas l'ombre d'un vent pour faire bouger les herbes. Le paysage était comme figé. Un petit point à l'extrémité gauche de la forêt en lisière, qui allait vers la droite d'un mouvement ininterrompu, gravissait la pente menant à l'école, et une fois en haut, suivait exactement la ligne de crête et filait vers le sud. Sur le fond bleu du ciel, on distinguait à présent nettement que cette minuscule fourmi était une personne qui marchait là-haut.
Et je reconnus les trois jambes de M. Sommer. Avec une régularité d'horloge, ses jambes avançaient à petits pas infimes, de seconde en seconde, et traversaient l'horizon.
Le vélo ne m'avait jamais particulièrement intéressée. Cette façon vacillante de se propulser sur tout juste deux roues toutes fines me paraissait tout à fait suspecte, et même inquiétante. Car personne n'était capable de m'expliquer pourquoi un vélo à l'arrêt tombait immédiatement, alors qu'il était censé ne pas tomber lorsqu'un être humain pesant 32 kilos s'asseyait dessus et naviguait dans cet équipage. Les lois physiques présidant à ce singulier phénomène, à savoir celles du mouvement gyroscopique, et en particulier le principe mécanique de conservation de l'impulsion rotatoire, m'étaient à l'époque totalement inconnus. Aujourd'hui encore, le terme de principe mécanique de conservation de l'impulsion rotatoire me plonge à lui seul dans une telle confusion que mon fameux endroit derrière la nuque se met à palpiter et à me chatouiller. Jamais, sans doute, je n'aurais appris à monter à bicyclette si ça n'avait pas été absolument nécessaire. Or, cela devint absolument nécessaire parce qu'on avait décidé que je prendrais des leçons de piano. Et ces leçons de piano, je ne pouvais les prendre que chez une dame qui habitait à l'autre bout d'Aubernsee, où il aurait fallu plus d'une heure pour se rendre à pied, tandis qu'à vélo, comme mon frère l'avait calculé pour moi, je pourrais y être en 13 minutes et demie. Ce professeur de piano s'appelait Marie-Louise Funkel. Plus exactement, Mademoiselle Marie-Louise Funkel. Quoique de ma vie, je n'avais jamais vu un être du sexe féminin qui eût moins l'air d'une demoiselle que Marie-Louise Funkel. Marie-Louise Funkel s'appelait Mademoiselle Marie-Louise Funkel, car elle n'aurait pas pu s'appeler Madame Funkel, quand bien même elle l'aurait souhaité, pour la bonne raison qu'il existait déjà une Madame Funkel. Ou plutôt, devrais-je dire qu'il existait encore une Madame Funkel. Mademoiselle Funkel avait en effet une mère. Si Mademoiselle Funkel était affreusement vieille, je ne sais pas du tout comment qualifier Madame Funkel. Vieille comme Hérode, comme le monde, comme un arbre, comme des eaux. Affreusement vieille. Elle devait avoir au moins 100 ans. En fait, il faudrait dire qu'elle n'existait plus que dans un sens très restrictif. Plutôt comme un meuble. Plutôt comme un papillon naturalisé et poussiéreux. Ou comme un vase ancien, mince et fragile. Et non comme un être de chair et de sang. Elle était assise dans le coin le plus obscur de la salle de piano, à gauche d'une horloge à balancier, impassible, inaperçue, muette. Ce n'est que dans de très très rares cas, lorsqu'un élève avait joué sans faute ses études de Czerny, que Mademoiselle Funkel allait au centre de la pièce et hurlait.
« Ma !»
Elle appelait sa mère « Ma !»«
Ma !» « Donne un petit gâteau à ce garçon. Il a si bien joué. »
Il fallait alors, quelle horreur, traverser en biais toute la pièce et se planter dans le coin. De nouveau, Mademoiselle Funkel hurlait.
« Donne un petit gâteau à ce garçon. »
Il arrivait alors que la main de l'enfant et ses extrémités de doigts de vieillarde se touchassent brièvement. Mais cela vous crispait jusqu'aux os, car on s'attendait à un contact froid et rugueux comme un poisson. Or, c'était un attouchement tiède, aérien, fugitif, et qui pourtant faisait frissonner comme d'un oiseau qui échappe à la main. Mon frère m'avait enseigné les principales règles du code de la route. Aussi, je me rendis tous les mercredis chez Mademoiselle Funkel pour ma leçon de piano de 3 à 4.
Tu sais l'heure qu'il est? Regarde! Il va être 3h15. Où es-tu encore allé traîner?
Il y avait sur la route le chien de la femme du docteur Hartlaub, un affreux petit fox terrier qui se précipite sur tout ce qui a les roues.
Le chien! Jouer avec le chien! Taratatatata! Tu es encore allé manger des glaces, oui? Je vous connais. Vous êtes toujours à traîner devant le kiosque de Madame Hirt et vous ne songez qu'à vous bourrer de glaces.
Or, ça, c'était d'une injustice révoltante. Me reprocher à moi d'avoir mangé des glaces alors qu'on ne me donnait même pas d'argent de poche. C'était des choses que pouvaient faire mon frère et ses copains, mais pas moi.
Cesse de pleurnicher. Sors tes affaires et montre un peu comme tu as travaillé. Je parie qu'une fois de plus, tu n'as rien fait.
De fait. Au cours de la semaine, je n'ai qu'à retrouver le temps de travailler, d'une part parce que j'avais des choses importantes à faire, et d'autre part parce que les études qu'on m'avait données à travailler étaient horriblement difficiles. Devant moi, 88 touches, et les études de ce monsieur Hassler, et Mademoiselle Funkel qui me soufflait dans la nuque son haleine rageuse. Et j'échouais lamentablement.
Celui-là, là! Et celui-là, là. Et le pouce, ici. Et le majeur, ici. Et celui-là, là-bas.
Et selon la même méthode.
Celui-là, là. Et celui-là, là. Et celui-ci, ici. D'ici à la prochaine fois, tu vas me faire le plaisir de la savoir, mon gaillard. Et par cœur, sans la partition. Et allegro. Sinon, tu auras affaire à moi.
Cela faisait assez mal et dura environ une demi-heure. Elle referma brutalement le cahier et cracha comme un chat en colère.
Nous allons faire encore 10 minutes de diabolie pour que enfin tu apprennes à déchiffrer. Gare à toi si tu fais une faute. 1, 2, 3, 4.
Diabelli était un compositeur gentil, pas un horrible fugaceur comme ce Hassler. Diabelli était simple à jouer, simple à en être simplet. J'adorais Diabelli. Même si ma sœur disait parfois « Quand on ne sait pas jouer du tout, on peut toujours jouer du Diabelli. » Nous jouâmes donc du Diabelli à quatre mains. Durant un moment, cela marcha drôlement bien. Je finis par oublier que la petite sonate était écrite en sol majeur. Et que par conséquent, le fa était marqué dièse au début. Quand le fa dièse apparut pour la première fois sur ma portée, je ne le reconnus pas en tant que tel. Tapait carrément à côté. Ce qui, tout mélomane le comprendra aisément, donna un couac fort déplaisant.
C'est typique, typique. À la première difficulté, monsieur s'empresse de taper à côté. Où as-tu les yeux? Fa dièse, c'est écrit là, noir sur blanc. Souviens-t'en. On reprend du début. 1, 2, 3, 4.
Comment je faisais pour faire une deuxième fois la même faute? Je ne me l'explique toujours pas, aujourd'hui encore. Elle devint d'un coup rouge comme un coq, de son index elle écrasait la touche.
Là, voilà un fa dièse, voilà, voilà un fa dièse, voilà un fa dièse.
J'avais les yeux rivés sur le fa dièse. À l'extrémité antérieure de la note était collée de la longueur d'un ongle environ. D'un diamètre de l'ordre d'un crayon. Recourbé comme un verre et d'un jaune verdâtre brillant, un petit paquet de mucosité fraîche provenant manifestement du nez de Mademoiselle Funkel. D'où l'éternuement l'avait projeté sur la moustache, où l'index l'avait recueilli dans le mouvement qu'elle avait eu pour s'essuyer, l'index le collant pour finir sur le fa dièse.
On reprend du début. 1, 2, 3, 4.
Il était impossible de jouer la note sans taper en plein dans le mucus. Oh mon Dieu! Faites quelque chose! Dites quelque chose! Faites que le temps revienne en arrière!
Faites que je ne sois pas obligée de jouer ce fa dièse. Mes doigts descendirent en titubant cet escalier de double croche comme on descend aux enfers. Ré, do, si, la, sol.
La fa dièse.
Et moi, pleinement conscient de ce que je faisais et avec un parfait mépris de la mort, je jouais fa naturel.
Tu l'as fait exprès.
Oui, tu l'as fait exprès. Seul petit vaurien. Espèce de petit morveux puté.
Insolent petit salopard.
Mais tu ne vas pas me mener comme ça par le bout du nez, tu entends? Ne t'imagine pas que je vais me laisser traiter comme ça. Je vais appeler ta mère. Oh. Je vais appeler ton père. Oh. Je vais exiger qu'on te flanque une bonne volée à ne plus pouvoir t'asseoir pendant une semaine. J'exige qu'on te consigne à la maison pendant 3 semaines et que chaque jour, tu travailles pendant 3 heures. Tes gammes de sol majeur et celles de ré majeur et la majeur avec fa dièse et do dièse et sol dièse jusqu'à ce que tu les joues même en dormant. Tu vas apprendre à me connaître, mon petit bonhomme. Si je m'écoutais, c'est tout de suite que je... De mes propres mains. Ramasse tes affaires et disparais.
Pour finir, elle saisit une pomme qui se trouvait dans une coupe devant elle et la lança si violemment contre le mur qu'elle s'y écrasa en laissant une tache brune à gauche de l'horloge à balancier, au-dessus de la tête de tortue de sa vieille mère.
Ce qui m'avait révulsé, ce qui m'avait retourné jusqu'à me donner ainsi des frissons de fièvre, ce n'était pas le savon que m'avait passé Mademoiselle Funkel.
Ni non plus la menace d'être battue et consignée.
Ni la peur de quoi que ce fût. C'était bien plutôt la constatation révoltante que l'univers entier n'était qu'une vaste dégueulasserie.
Injuste, méchante et infâme.
Et qui était responsable de cette dégueulasserie ?
Les autres.
À savoir tous les autres. Tous les autres en bloc et sans exception.
À commencer par ma mère.
Qui ne m'achetait pas de vélo correct.
Par mon père.
Qui lui donnait toujours raison.
Par mon frère et ma sœur.
Qui ricanait de me voir pédaler debout. Par l'ignoble cabot de la femme du docteur Hartlaub.
Par les piétons qui encombraient la route du lac me forçant à arriver en retard.
Par le compositeur Hassler qui m'assommait et me torturait avec ses fugues.
Par Mademoiselle Funkel avec ses accusations mensongères et sa répugnante crotte de nez sur le fa dièse.
Que les autres crèvent la bouche ouverte de leur propre dégueulasserie.
Qu'ils collent donc leur crotte où ça leur plairait.
Sans moi. Je ne jouais plus.
J'allais dire adieu à ce monde.
J'allais me tuer.
Et tout de suite, je bondis sur les pédales et filais.
Rejoignis mon itinéraire d'écolier en direction du transformateur.
Là se dressait le plus grand arbre que je connusse. Un pin énorme et très vieux.
Certes, je savais qu'on pouvait aussi se noyer, se pendre, s'asphyxier, ou même se faire mourir par le courant électrique.
Mais pour ça, il te faut un neutre.
Avait dit mon frère.
C'est la condition sine qua non, et sans neutre, il se passe rien, car sinon tous les oiseaux qui se poseraient sur un fil électrique tomberaient raides immédiatement, c'est pas le cas.
Pourquoi ?
Parce qu'ils ont pas de neutre.
Tout ça était bien trop compliqué pour moi. Le courant électrique et tout ce genre de choses. Oh non, pour moi, il ne pouvait être question d'autre chose que de me jeter du haut d'un arbre. Tomber des arbres, je connaissais. Ce genre de chute ne me faisait pas peur. J'estimais mon altitude à 30 mètres.
Le vide était fascinant. Il m'attirait, me séduisait. On aurait dit qu'il faisait signe.
Viens ! Viens !
Il me tirait comme au bout d'un fil invisible.
Viens ! Viens !
Oui, bien sûr que je veux. Seulement, je ne peux pas encore décider quand. Me décider pour un moment précis, pour un instant du temps. Je suis incapable de dire maintenant. Maintenant, j'y vais.
Je résolus de compter jusqu'à 3.
1, 2.
Je m'arrêtais ? Parce que je ne savais pas si je devais compter les yeux ouverts ou les yeux fermés. Je décidai de compter les yeux fermés, de me pencher sur le vide les yeux encore fermés et de ne les rouvrir que lorsque commencerait ma chute.
Un, deux... J'entendis alors qu'on frappait. On frappait sur la route.
C'était un frappement dur et rythmé, aussi précis que le métronome de Mademoiselle Funkel. On aurait presque dit qu'on singeait ma façon de compter. J'ouvris les yeux et à cet instant, ce bruit cessa, remplacé par un froissement de feuilles mortes, un craquement de brindilles et un puissant allaitement d'animal. Et je vis Monsieur Sommer à mes pieds, 30 mètres plus bas, exactement à la verticale.
J'étais perché sur ma branche, collé contre le tronc du pin. J'ignore comment j'y étais revenu. Je n'avais soudain plus la moindre envie de sauter dans le vide. Cela me semblait ridicule. Je ne comprenais plus comment une idée aussi idiote avait pu me venir.
Se tuer à cause d'une crotte de nez.
Thank you.
Il se passa bien 5 ou 6 ans avant que je rencontre M. Zomer une autre fois, qui fut aussi la dernière.
Entre-temps, je le vis sûrement plus d'une fois, car enfin il était impossible de ne pas le voir, lui qui était sans cesse par les routes.
Mais il n'attirait plus spécialement mon attention.
Je crois qu'il n'attirait plus l'attention de personne.
On l'avait tellement vu qu'on ne le voyait plus.
Il faisait partie de l'inventaire d'un paysage trop connu, qui ne vous fait pas vous exclamer à chaque fois.
« Regarde, voilà le clocher !»«
Regarde, voilà la côte qui mène à l'école !»«
Regarde, voilà le car qui passe !»
Nous avions appris que sa femme, la confectionneuse de poupées, était morte. Mais on ne savait exactement ni quand ni où.
Lui n'habitait plus le sous-sol de l'artisan peintre Stengelmeier. Il habitait quelques maisons plus loin, le grenier de Riedel le pêcheur.
Mais il était rarement là. Où il allait?
Où il passait la nuit?
Si même il dormait quelque part, ou bien si au contraire il marchait nuit et jour, on n'en savait rien. D'ailleurs, ça n'intéressait plus personne. Les gens avaient désormais d'autres préoccupations. Ils se souciaient de leur voiture, de leur lave-linge, de leur dispositif d'arrosage automatique de la pelouse, mais pas de l'endroit où un vieil original posait sa tête pour dormir. Je mesurais à peu près 1,70 m, pesais 49 kg et chaussais du 41.
J'avais lu tous les contes de Grimm et la moitié de Maupassant.
Je ne grimpais plus guère aux arbres.
En revanche, je possédais un vélo.
J'avais la passion du vélo. Le vélo, c'était presque comme de voler.
À vrai dire, même à cette période de mon existence, il y a des choses qui me gâchaient la vie. En particulier, A. Le fait que je ne pouvais pas être assurée de disposer d'un émetteur radio à modulation de fréquence. Et B. Le fait que nous n'avions pas de télévision. Ainsi, j'étais contraint de me trouver chez mon ami Cornelius Michel pour bénéficier au moins épisodiquement de spectacles culturels.
Lassie, chien fidèle.
Ma sorcière bien-aimée.
Au nom de la loi.
Ce qui était bête, c'est que ces émissions passaient toutes en fin d'après-midi et se terminaient à 8 heures précises. Or, à 8 heures précises, j'étais censée être assis, les mains lavées, à la table familiale.
Mais étant donné qu'on ne peut pas être au même instant en 2 lieux différents, mes escapades télévisuelles provoquaient régulièrement le conflit classique entre le devoir et l'inclination.
Il me semble que cette période de mon existence était caractérisée par des conflits de ce genre.
Sans cesse on devait, on était censé.
On ne devait pas.
On aurait mieux fait de...
Constamment les autres attendaient.
Réclamaient.
Exigeaient de vous quelque chose.
Fais ceci.
Fais cela.
Mais n'oublie pas non plus.
Est-ce que tu as fait ça?
Est-ce que tu es allé là?
Pourquoi n'arrives-tu que maintenant?
Je ferais mieux de me concentrer sur le récit de ma dernière rencontre avec M. Zomer, qui est aussi la fin de son histoire et de l'histoire que je raconte ici.
C'était en automne, après une de ses séances télévisuelles chez Cornelius Michel. L'émission était ennuyeuse. Aussi avais-je décidé de quitter la maison des Michel un peu avant 8 heures pour être à peu près à l'heure pour le dîner. L'obscurité avait depuis longtemps déjà envahi le paysage.
Il y avait juste encore à l'ouest, au-dessus du lac, un petit peu de lumière grise dans le ciel.
Je roulais sans lumière, parce que l'éclairage était tout le temps détraqué. Tantôt l'ampoule, tantôt le boîtier, tantôt le câble. D'ailleurs, je n'avais pas besoin de lumière.
Je pouvais faire ce chemin les yeux fermés. Soudain, ma chaîne sauta.
C'était malheureusement un incident fréquent avec ce dérailleur.
Ce problème m'avait déjà coûté des après-midi de bricolage sans que j'aie pu parvenir à le résoudre.
Je stoppai donc.
Je descendis.
Me penchai sur la roue arrière.
Afin de décoincer la chaîne prise entre le pignon et le cadre.
Et en actionnant doucement la pédale, de la faire revenir sur le pignon.
Cette manœuvre m'était si familière que j'étais capable de l'exécuter sans difficulté, même dans l'obscurité.
Le seul inconvénient de cette affaire, c'est qu'on avait après les mains pleines de cambouis.
Aussi, une fois la chaîne remise, je traversai la route du côté du lac, pour m'essuyer les mains aux grandes feuilles sèches d'un petit érable.
En écartant ses rameaux, je me dégageais une vue sur le lac.
Il était là, posé comme un grand miroir clair. Et au bord de ce miroir se tenait M. Zomer. Sur le moment, je crus qu'il n'avait pas de chaussures. Ensuite, je vis qu'il avait de l'eau jusqu'au-dessus de ses brodequins. Il se tenait debout à quelques mètres de la rive, me tournant le dos. Je le suivais, la bouche ouverte, les yeux écarquillés. Je devais avoir l'air de quelqu'un à qui on raconte une histoire palpitante. Je n'étais pas effrayé, j'étais plutôt sidéré, fasciné par ce que je voyais. Mais à vrai dire, sans comprendre tout de suite ce que le spectacle avait de monstrueux.
Je ne criais pas, monsieur Sommer, arrêtez, revenez. Je ne me précipitais pas à toutes jambes pour chercher du secours. Je ne cherchais pas des yeux une barque qui l'aurait sauvé, un radeau, un matelas pneumatique. Je ne détournais pas le regard. Même le temps de cligner des yeux du point minuscule de cette tête qui là-bas était en train de couler.
Et tout d'un coup, il ne fut plus là.
Il n'y avait plus que le chapeau de paille qui flottait sur l'eau.
Et puis, au bout d'un temps terriblement long, peut-être une demi-minute, peut-être une minute entière, il y eut encore quelques grosses bulles qui vinrent gargouiller à la surface.
Puis plus rien. J'avais d'abord pensé qu'il était là en train de chercher dans l'eau quelque chose qu'il avait perdu. Mais qui aurait idée de garder ses chaussures pour chercher dans l'eau?
Ensuite, lorsqu'il s'était mis en marche, je m'étais dit, il va se baigner. Mais qui aurait l'idée de se baigner tout habillé la nuit, en octobre?
Et puis le voyant s'enfoncer dans l'eau, j'eus l'idée absurde qu'il avait l'intention de traverser le lac à pied.
Non, pas à la nage. Je ne songeais pas une seconde à la nage. Monsieur Sommer et la nage, ça n'allait pas ensemble, non. Le traverser en marchant à pied.
En arpentant à toute allure le fond.
À 100 mètres sous l'eau.
Sur 5 kilomètres.
Jusqu'à l'autre rive.
Je n'avais pas soufflé mot de ce que je savais. Ni à mon frère, ni à ma sœur, ni à la gendarmerie, ni même à Cornelius Michel, je ne dis un traître mot. C'était le souvenir de ce gémissement dans la forêt, de ses lèvres tremblant sous la pluie, de cette phrase suppliante. Mais laissez-moi enfin en paix. Le même souvenir qui m'avait fait me taire lorsque j'avais vu M. Sommer s'enfoncer dans l'eau.
Vielleicht ist er ausgewandert nach Kanada oder nach Australien, weil es ihm mit seiner Klaustrophobie bei uns in Europa zu eng geworden ist.
Auf Bäume klettern aber, so dachte ich damals, konnte ich mein Leben lang.
Peut-être qu'il a quitté le pays, pour le Canada ou l'Australie, parce que, avec sa claustrophobie, il se sentait trop à l'étroit chez nous en Europe.
Noch mit 120 Jahren, noch als klappriger Vaterkreis, wurde ich dort oben sitzen, auf der Spitze einer Ulme, einer Buche, einer Tanne. Wie ein alter Affe.
Er hat sich im Gebirge verirrt und ist in einer Schlucht zu Tode gestürzt.
Il est devenu complètement fou. Il ne retrouve plus le chemin de chez lui. Sans doute, ne sait-il plus comment il s'appelle, ni où il
habite. Und über das Land schauen und über den See bis hinter die Berge.